Bienvenue à la série de podcasts Propulser votre équipe d'O2 Coaching avec votre hôte Chloé Caron, fondatrice et présidente d'O2 Coaching. En tant que coach exécutive, auteur, femme d'affaires, leader d'opinion et conférencière avec plus de 20 ans d'expérience, la CSU de Chloé, sa contribution stratégique unique, consiste à créer une nouvelle génération de leaders inspirants et inspirés en ayant un impact positif sur la vie d'un million de leaders à travers ses webinaires, conférences, livres et podcasts. À travers ce podcast, Chloé et ses invités vous partageront leurs histoires de leadership, leurs défis, leurs réussites et leurs apprentissages. Les conversations mettront en évidence des conseils pratiques pour les leaders d'aujourd'hui. N'oubliez pas de partager vos réflexions sur cette série de podcasts sur nos pages LinkedIn ou Facebook. Bonne écoute!
Bienvenue à mon podcast Propulser votre équipe. Cette semaine, plein de trucs de la part de Christine Maestracci, vice-présidente acquisition et distribution internationale de Québécois Contenu et présidente de Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques. Avec Christine, on a abordé plusieurs sujets, entre autres l'écoute à un niveau vraiment plus profond. C'est le défi qu'elle s'est donné d'écouter ces gens, de pouvoir créer des moments qu'elle appelle cadre de porte pour vraiment être à l'écoute des autres, de ses employés, pour leur permettre de trouver leur propre solution, parce qu'elle sait, elle dit que c'est la meilleure façon pour eux d'être engagés, d'être innovants aussi, ce dont tous avons besoin en ce moment. Donc, elle nous partage ses trucs sur la façon dont elle gère ses réunions, la façon dont elle écoute et la façon dont elle utilise le style de leadership participatif pour vraiment créer un climat d'équipe où tout le monde se sent engagé. Je vous invite à l'écouter avec grand plaisir. Comme moi, vous vous en tirerez plein de belles leçons. Bienvenue à ce podcast Propulser votre équipe. Je suis vraiment tellement excitée de t'avoir avec nous. Christine, une petite courte présentation. Christine est vice-présidente acquisition et distribution internationale de Québécois Contenu. Ça fait depuis 2003 que tu es chez Québécois. Tu avais plusieurs occupations, évidemment. Et là, en janvier, tu as été nommée vice-présidente acquisition et distribution internationale. Tu es avocate de formation et tu es présidente du conseil d'administration de l'organisme Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numérique, le FCTMN. Bienvenue à ce micro.
Merci, Chloé. Merci. Je suis très contente d'être là.
C'est excitant parce que, bon, évidemment, toi et moi, on se connaît en dehors du contexte professionnel. Alors, il y a une complicité qui est là, puis c'est toujours agréable de pouvoir avoir une amie avec qui partager, puis de sonder tes idées. Moi, j'en connais quelques-unes, puis je me disais, je trouve que c'est tellement intéressant. Tu as une passion pour le leadership, pour la gestion d'équipe. Alors, je me suis dit, il faut absolument que les gens puissent entendre tes réflexions, tes trucs, tes défis aussi, parce que c'est aussi ça, ce micro-ci. Et le contexte actuel est particulier, la pandémie. Toi, tu es dans la culture. Comment on passe à travers une pandémie comme ça, dans ce contexte-ci, en culture?
Écoute, la culture, c'était déjà pas facile. L'industrie du divertissement puis des médias locales était en compétition avec des joueurs mondiaux qui disposent d'énormément, énormément de revenus, de capitaux. Cette industrie-là s'est retrouvée aussi face à une compétition locale beaucoup plus grande. Donc, le contexte compétitif, il est dynamique, il est complexe et il s'est complexifié. On est passé d'un monde où on avait un ou deux compétiteurs avec une industrie qui se retrouve à avoir de nombreux compétiteurs de différents niveaux avec des moyens et on compétitionne tous pour avoir l'attention des consommateurs. Avec la pandémie, l'industrie du divertissement puis des médias a été heurtée, comme la plupart des industries. On a juste à penser, par exemple, à l'arrêt des plateaux en raison de la crise sanitaire, pour des raisons de distanciation sociale, ou même à la fermeture des lieux de diffusion, que ce soit les salles de spectacle, les salles de cinéma. Donc, ça a augmenté la pression sur une industrie qui faisait déjà face à des défis importants. Quand on parle de défis, Il n'y a jamais eu autant de contenu accessible de différentes façons, mais il y a une fragmentation de l'écoute sur plein de plateformes. Et puis ça, ça vient avec un impact évident sur la monétisation parce qu'il y a une grande part des revenus qui a transféré vers d'autres modèles que les modèles traditionnels ou vers d'autres joueurs que ceux qui étaient installés déjà au Québec dans le territoire. Puis, il n'y a jamais eu autant de gens qui ont voulu se renseigner, s'informer, voir du contenu. D'autant plus que, tu sais, les jeunes n'étaient pas à l'école au début de la pandémie. Il y avait plusieurs parents qui ne travaillaient pas. Bon, une fois que la situation s'est un petit peu stabilisée, on sait que le contenu a pris une part très, très importante dans la vie quotidienne des gens. Puis, la demande n'a jamais été aussi grande. Et l'impact de ça, c'est que ça favorise l'émergence de nouveaux modèles. Je te parlais des films tout à l'heure. Bien, il y a des films qui ont été produits avant la pandémie, d'autres qui ont été produits pendant la pandémie. Mais il n'y a pas de sortie salle. Alors, comment une industrie fait pour trouver son public lorsqu'il n'y a plus de salle de cinéma? Donc, il y a des modèles dont on discutait à très haut niveau dans l'industrie depuis très longtemps et qu'on négociait avec plus ou moins de succès ou un succès mitigé depuis un certain temps. Qui, là, se sont matérialisés un petit peu dans l'urgence, très, très rapidement. Il y a des nouvelles plateformes de diffusion aussi qui ont émergé, que ce soit pour la musique, pour les spectacles, pour l'humour. Toutes les initiatives d'avoir un artiste dans son salon ou sur son ordinateur. C'est un peu trop tôt pour savoir qu'est-ce qui va rester de tout ça lorsqu'on sortira de cette pandémie, parce qu'on va en sortir. Mais c'est clair qu'il y a eu une très grande créativité des gens pour continuer à produire du contenu et pour continuer à diffuser du contenu. Si on n'a qu'à penser, par exemple, à la façon de produire. Au départ, il n'y avait pas de production qui se faisait, mais assez rapidement, tous les joueurs de l'industrie, toutes les parties prenantes ont convenu de façon pour protéger les équipes qui faisaient la production et d'être capable de recommencer à produire. Donc, on a vu, par exemple, des idées extrêmement créatives au niveau, très rapidement, de produire des émissions quotidiennes, d'être capable de parler aux gens, parce que les gens avaient besoin de ça. Ils étaient confinés chez eux, un petit peu le seul, avec ce qu'on a appelé la grand-messe, là, où tout le monde écoutait les informations. Mais après, les gens, ils avaient besoin de se divertir, ils avaient besoin de se retrouver, de se reconnaître dans du contenu. Donc, ça a fait en sorte qu'il y a plein de choses qui ont été produites de façon extrêmement créative, par les producteurs, par les diffuseurs. Je te dirais aussi que ça a donné lieu à des nouvelles opportunités d'affaires, la pandémie, notamment à l'international. Moi, dans le cadre de mon travail à la distribution internationale, je travaille avec les producteurs partenaires avec qui on produit du contenu pour l'ensemble des plateformes de Québécois contenu, de Québécois. Et on a énormément de contenu d'exception. Le reste de la planète a tendance d'abord à favoriser les contenus qui ont été tournés en anglais. Et puis là, depuis la pandémie, bien, on a vu la possibilité de pouvoir offrir à l'international encore plus qu'avant du contenu qui était tourné en français. Et l'ensemble de nos séries fait excessivement bien à l'international. Donc, de quoi être très fière. Donc ça, la pandémie a favorisé ça parce que la plupart du contenu anglophone, il y en avait qui ne se produisaient plus. Et donc, les partenaires internationaux ont prêté encore plus un œil, ont porté encore plus attention au contenu d'ici. Et ça, c'est très important. Et pour finir, je te dirais, l'impact de la pandémie sur la culture, c'est qu'au même titre qu'il y a eu une vague au niveau de l'achat local, il y a un très grand engouement pour tout ce qui concerne la culture d'ici. On en ressort, je pense, encore plus fort au niveau local, avec des ancrages qui nous ressemblent et dans lesquels le public d'ici se reconnaît. Et ça, c'est extrêmement fort. Puis partout, la réponse à l'étranger est fabuleuse par rapport au contenu québécois. Il y a une réelle créativité qui est reconnue. Tu sais, autrefois, c'était plus... on entendait beaucoup les séries scandinaves, les séries israéliennes qui étaient à l'ordre du jour. Et là, c'est le point... On est rendu au point d'éclosion pour le Québec pour faire en sorte qu'on devient, je dirais, le pays qui est regardé, le lieu qui est regardé pour la créativité au niveau... audiovisuel. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est un bon moment.
Mais comment t'expliques ça, Sylvie? Je m'excuse, je t'interromps, mais comment t'expliques que le Québec a tellement cette saveur qui parle au reste du monde?
Mais je pense ce qu'on vit, c'est quand même relativement universel. Mmh. Ce qu'on transpose dans nos histoires, les trames narratives, les personnages, même si c'est local, ce sont des choses, des thèmes qui s'exportent très bien et qui se revivent ailleurs. Tu sais, je peux te parler de séries qui sont basées d'événements réels, qui ont été vécus ici par des gens d'ici. Et pourtant, ce sont des séries qui voyagent, qui bien sûr sont réadaptées après, avec les codes peut-être un petit peu plus locaux. Mais on n'a rien à envier, je dirais, aux pays scandinaves, aux pays qui sont très forts aussi en fiction. Et on est les champions de la créativité au niveau des histoires, au niveau des personnages.
Avec une habitude aussi, peut-être, à moins que je me trompe, mais de travailler avec des budgets qui sont peut-être un peu plus... qui incitent à la créativité, dirons-nous.
Oui, tout à fait. Alors, je ne voulais pas le mentionner, mais c'est effectivement le cas. On a des budgets qui sont moindres, même si on se compare au Canada anglais, par exemple. Mm. Même pas dans les mêmes lignes que les États-Unis.
Je me rappelle d'un de tes courriels. On était probablement fin mars, donc tout de suite après l'éclosion de la nouvelle ou du lockdown, je devrais dire. Ouais. Puis tu m'as écrit, OK, comment je fais là pour gérer mon équipe à distance? Là, donne-moi tous tes trucs. Puis je sentais cette réelle, pas préoccupation, mais ce réel souci de créer avec ton équipe une proximité, puis que tu n'allais pas te laisser arrêter par cette distance-là. Puis bon, je t'ai envoyé quelques trucs, mais tu étais déjà très, très en action là-dedans. Puis j'étais curieuse de voir, qu'est-ce qui a été le plus porteur pour toi à ce moment-là, puis comment tu as vu ça évoluer depuis les derniers mois dans ton équipe?
Je te dirais que le mot d'ordre pour moi, ça a été la flexibilité et puis la bienveillance. Alors, deux choses. D'une part, je pense qu'il fallait accepter la nouvelle réalité. Moi, j'ai une équipe qui voyage énormément de par ses fonctions. Donc, c'est plutôt rare que j'ai l'entièreté de mon équipe physiquement avec moi au bureau. Et puis souvent, bien, l'équipe est là au complet, mais c'est moi qui est à l'étranger. Donc, c'est une réalité pour nous qui existait. Passé les premiers temps où il a fallu très vite s'assurer que tout le monde avait tous les outils dont il avait besoin pour être capable de fonctionner de façon tout à fait autonome à la maison, comme si on recréait un petit peu notre univers de bureau. Donc, passé ce moment-là et passé, je dirais, les premiers émois de dire, est-ce que nos proches, les gens qu'on aime, vont bien, se portent bien? Est-ce qu'ils sont... en danger, etc. Donc, il y avait tout ça, je dirais, le côté émotif, anxieux, fragile des gens qu'il fallait aussi considérer. Mais passé ce moment-là, on est arrivé assez vite dans un mode où on avait besoin d'établir une cascade d'informations parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient au niveau du travail, au niveau de notre management qui avait de l'information à descendre. Et puis nous, en même temps, bien, il y avait quand même beaucoup de choses qui bougeaient, donc il fallait être capable de remonter cette information-là. Donc, je dirais qu'au début, j'étais très présente. J'ai voulu vraiment être là pour mon équipe. Donc, on se parlait deux fois par jour, le matin et le soir. Des fois, c'était juste pour faire un petit spot check. Tout le monde va bien dans votre écosystème, dans votre famille. On a fait ça pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on ait notre rythme de croisière. Et après, on est passé à quelque chose d'un petit peu moins journalier, un peu moins quotidien. Et on a évolué. 7 mois plus tard, je peux te dire qu'on n'est plus du tout dans la même mouvance. On a plutôt, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon équipe, parce que des fois, on sent là, qu'on a étiré un petit peu, on est rendu au bout d'une énième rencontre. Et puis, après des longues journées où on passe notre vie sur Teams, sur Skype, sur Zoom, sur peu importe le système qu'on utilise, il y a un certain épuisement et une certaine fatigue qui s'installait. Donc, je ne voulais pas rajouter encore à ça. Donc, j'ai privilégié des appels. Maintenant, je suis beaucoup plus, 7 mois plus tard, là, après toute l'évolution qu'il y a eu, on est revenu à des rencontres bimensuelles d'équipe où on a choisi de se rebrancher sur ce qu'on aime faire, c'est-à-dire du contenu. Donc, on appelle ça contenu. Parlons de contenu. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui t'a plu? Quelle série on devrait tous regarder? Quel film t'a touché? On est vraiment dans quelque chose qui nous passionne, dans de l'échange. On dirait que ça permet à tout le monde de focusser puis de canaliser. Puis après ça, tout le monde repart chacun dans leurs équipes. Et puis, il y a des meetings, par contre, hebdomadaires d'équipes qui se font où là, on est plus dans les objectifs, le focus sur les objectifs, où est-ce qu'on en est dans ce qui est mesurable et comment on est capable d'avancer malgré tous les défis que ça peut représenter. Mais moi, j'ai surtout commencé des meetings de cadre de porte. Alors, c'est pas des vraies rencontres, mais plusieurs fois par semaine, je me prévois des plages horaires où j'appelle les gens, je regarde qui est disponible, puis je leur passe un petit coup de fil. Et j'ai pas nécessairement quelque chose à leur demander, j'ai pas nécessairement un dossier à discuter avec eux. Je veux savoir comment ils vont. Prendre le temps de demander comment ça se passe, comment tu vas, est-ce que tu as tout ce dont tu as besoin, que ce soit en termes d'outils, de temps, de travail. Moi, comment je peux faire pour éliminer les obstacles que tu pourrais avoir pour atteindre tes objectifs puis te rendre où tu as besoin de te rendre dans un dossier avec quelqu'un, dans une rencontre. Donc, je le fais et je trouve que c'est très porteur. Jusqu'ici, la réponse a été fabuleuse. Et j'aime beaucoup ces moments-là, puis qu'on a appelé ça mes moments cadre de porte, parce que c'est quelque chose que je faisais beaucoup avec mon équipe lorsqu'on était sur place. Mais de temps en temps, je passais la tête dans le cadre de porte pour savoir comment ça allait, tout simplement.
Ça ramène, j'imagine, un peu de spontanéité, un peu de naturel, un peu de vrai. Là, pas qu'on n'est pas vrai, mais on est tellement organisé, avec, comme tu le disais, avec les Zooms, on passe une journée complète en meeting. Le fait de pouvoir s'arrêter, prendre un moment... Puis oui. Juste parler sans objectif, sans attente, ça doit donner un peu d'oxygène, justement. Toi,
ça donne beaucoup d'oxygène, puis on est dans quelque chose de plus informel et ça demeure très important. Et je trouve que la pandémie, en fait, le défi au niveau de la pandémie, d'être à distance, c'est qu'on perd un petit peu cette spontanéité, ouais. Cette discussion autour de la machine à café ou la rencontre dans la cafétéria ou alors ces fameuses discussions de corridor ou de cadre de porte. Je pense que c'est très apprécié. Ça demande du temps, ça demande un effort parce qu'on a quand même des choses à livrer. On est tous extrêmement occupés. Je pense qu'il faut prendre le temps de le faire. Pour moi, ça me donne l'impression d'être dans la bienveillance, dans le fond, vis-à-vis mon équipe. Je peux dire qu'ils répondent très, très, très bien à ça. Je pense qu'ils sont touchés d'abord qu'on le fasse. Puis sache aussi que l'équipe elle-même, moi, je leur ai demandé beaucoup. Je ne veux pas dicter les choses pour mon équipe. Je demande beaucoup à mon équipe de voir qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment ils peuvent eux-mêmes, de quoi ils ont besoin. Parce que souvent, comme gestionnaire, on a tendance à présumer de ce dont une équipe peut avoir besoin comme moyen pour se mobiliser ou s'engager ou se regrouper. Et je leur ai demandé « qu'est-ce que vous aimeriez faire? » Et donc, il y en a une qui a dit « ben souvent, on se voyait le midi pour manger ensemble. » Donc, on a recréé un petit peu ces lunchs virtuels qui sont là quelques fois par semaine. Les gens, ils vont pas, un petit peu comme si on arrivait avec notre lunch puis on le faisait. Ça permet de parler de tout et de rien. Des fois, de régler des choses, par contre, qui sont très importantes dans notre écosystème. On fait aussi un 5 à 7 tous les jeudis soirs, chaque semaine. Pourquoi? Bien, parce que c'est important le plaisir quand on travaille ensemble. On n'est pas juste dans l'atteinte des objectifs, ouais. Se surpasser, se dépasser, avoir un sentiment d'accomplissement, de réalisation. Il faut avoir du plaisir.
Sur une base régulière, hein, c'est ce que j'entends. Beaucoup avec ce que tu amènes, c'est de recréer hebdomadairement des environnements où c'est agréable, où on peut se déposer, où oui, on est dans la performance, mais où... C'est pas que ça. Notre identité n'est pas que ça. Puis le rôle du gestionnaire à crise, ce climat-là, ça me semble vraiment très important. Dans tes conversations de corridor et de cadre de porte, comme tu les appelles, je peux imaginer qu'une des choses sur lesquelles je sais que tu as travaillé dans les derniers temps, c'est l'écoute. J'imagine que tu mets ça à profit dans ces conversations-là, pas dans ces conversations-là, mais dans ces conversations-là, j'imagine.
Beaucoup. Oui, il faut vraiment, c'est une difficulté. Il ne faut pas penser, en faisant ces discussions de cadre de porte-là, tout de suite en termes de solutions, pour apporter des solutions. Je pense qu'il faut vraiment être présent, il faut écouter, il faut poser des questions. Et déposer son jugement ou réfréner son envie un petit peu irrésistible de dire, mais là, on va faire ci, on va gérer ça comme ça, on va l'organiser de telle façon, parce que ça vient vite, ça. On est habitué, on est des achievers, on veut régler les choses. Et puis, je fais exprès de prendre un recul et d'avoir une intention lorsque j'appelle ces gens-là par Teams ou que je... Des fois, je le fais au téléphone aussi, parce qu'au téléphone, on entend autre chose. La voix révèle énormément de choses au-delà de l'image. Et des fois, je préfère prendre le téléphone pour simplement parler puis dire coucou. Et c'est important de ne pas avoir ce filtre-là, d'essayer de régler, de ne pas être tout de suite dans un mindset d'organisation, de solution. Au contraire, je pense que c'est l'occasion rêvée pour essayer de voir comment la personne elle-même peut trouver les propres solutions. Parce que souvent, les solutions, elles sont déjà là. Les membres de l'équipe la connaissent ou les connaissent. Et ils ont juste besoin eux-mêmes de les exprimer, de les prioriser, de placer les choses au bon endroit.
Pour ceux qui vont nous écouter, ils ne verront pas le sourire que j'ai en t'écoutant, mais ceux qui vont peut-être nous voir là, dans d'autres circonstances, j'ai un sourire qui va d'une oreille à l'autre parce que pour moi, c'est ça le travail que moi j'ai à faire comme coach, c'est d'aider justement les gestionnaires à ne pas se sentir obligés d'arriver avec toutes les solutions, puis plutôt de j'ai juste le terme en anglais, là, ignite, d'insuffler ça, oui, au sein de leur équipe. C'est ce que j'entends beaucoup.
D'inspirer.
Oui, ouais, d'inspirer.
D'inspirer ça à l'équipe, je veux dire, qu'ils trouvent leur propre façon aussi de gérer certaines choses, des choses qui leur conviennent.
Alors là, je veux décortiquer ça un petit peu avec
bien
toi.
Bien sûr.
Tu en as parlé, tu as dit qu'il faut comme faire un petit stop. J'ai une intention, je veux comme qu'on le décortique un peu parce que je sais que c'est le défi, en tout cas, un des défis les plus importants des gestionnaires. C'est peut-être pas le défi, mais c'est un des défis les plus importants. Donc là, avant ton appel, tu fais quoi? Tu te mets-tu dans un contexte particulier? Est-ce que tu prends juste une seconde puis tu fais quoi?
D'abord, je vais faire une petite note parce que comme je suis à la maison, comme bien des gens en ce moment, on a trouvé une façon chez nous d'écrire un gros « no way ». Tu ne rentres pas dans ma chambre ou tu ne rentres pas dans la pièce dans laquelle je suis pendant un certain temps. Ça évite d'être dérangé, même si ça va durer 5-10 minutes, cet appel-là qui est si précieux. Ensuite, moi, je formule mon intention. Je me dis « OK, là, je veux vraiment écouter, être présente et puis aller là où la personne va m'amener, dans le respect complet de qui elle est et du moment où je la prends, parce qu'en même temps, peut-être que le timing ne sera pas idéal pour cette personne-là. Je ne sais pas ce qui m'attend. C'est un peu une surprise. Jusqu'ici, ça a tout le temps été des belles surprises, des belles découvertes, parce que les gens finissent toujours par nous donner quelque chose, nous offrir quelque chose d'eux. Ils sont chez eux. Je rentre dans leur intimité. Dans le fond, c'est ça qu'on fait à chaque fois qu'on se parle. Et puis il faut accepter, je pense, tout ce qui est un petit peu plus informel. Donc, on est dans le vrai, tu le disais tout à l'heure, on est dans l'authentique. Et moi, j'ai besoin d'être vrai et authentique, tout en étant optimiste. Parce que je pense que je ne peux pas arriver là non plus puis dire comment c'est terrible parce qu'il ne fait pas beau dehors puis que la lumière est en train de diminuer. La lumière quotidienne, on en a de moins en moins. Qu'il s'est passé telle chose dans ma vie. Je ne suis pas là pour comparer. Je ne suis pas là pour faire part de ce que moi, je vis. Je suis vraiment là pour écouter. Si on me pose des questions, je vais répondre. Mais je suis là pour leur permettre de se déposer, en fait. C'est comme ça que je l'aborde.
C'est tellement précieux pour les gens dans ton équipe, j'en suis convaincue, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut se déposer, puis on a peut-être le sentiment qu'on doit performer aux yeux de notre boss. Hein, pas. On a besoin de performer, évidemment, alors d'avoir cette capacité à aussi exprimer puis chercher des solutions. Je suis sûre que ça vaut très cher pour les gens dans ton équipe, vraiment. Bravo.
Je pense que oui. Écoute, j'ai du bon feedback parce qu'en plus, moi, je demande du rétro-feedback. Je demande d'avoir un retour, pas immédiat, mais je trouve le moyen dans des conversations subséquentes d'aller revalider certaines choses ou certaines façons de fonctionner. Puis si le consensus fait en sorte que ça convient pas ou ça convient moins bien dans le contexte actuel, on change. L'outil que j'ai pour ça, c'est un petit sondage anonyme, en fait. Alors, au début, mon équipe était un petit peu réticente à ce sondage et puis je leur ai vraiment garanti que c'était tout à fait anonyme, que je ne voyais pas qui répondait. Quoi? Je savais qui avait répondu au sondage. Et puis, c'est vraiment des choses très simples sur dans quel état d'esprit ils sont à un moment donné. Est-ce que pour eux, la mission qu'on s'est donnée en équipe et puis les objectifs qu'ils ont à atteindre dans l'année sont clairs? Est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir tous les outils dont ils ont besoin pour atteindre ces objectifs-là? Puis après ça, je décortique, on va un petit peu plus loin. Là, c'est 5-6 questions, là, c'est pas 30 questions. Mais d'aller voir, mais qu'est-ce qu'ils auraient besoin présentement de la part de leur palier de direct report, donc leur directeur ou leur directrice? Et puis, qu'est-ce qu'ils auraient besoin de leur vice-présidence aussi?
Ça te permet d'être agile, là, vraiment, t'adaptes tout de suite, là, en temps réel, là,
basé sur... Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut agir après. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est un bel outil de faire ce sondage-là de façon anonyme, de regarder ce qui sort de ça, puis je dirais que je suis plutôt très, très heureuse de ce qu'ils ressentent. Ça permet aux gens de dire certaines choses, mais après, il faut en faire quelque chose. On ne fait pas des sondages juste pour faire des sondages ou aller tester. C'est peut-être aussi regarder avec une équipe, on a fait des exercices comme ça, on a dit, c'est quoi vos irritants? Si j'avais là, des irritants, nommez-moi-en 3 irritants qui devraient disparaître pour vous aider à mieux faire votre travail, à être encore plus, pas nécessairement performant, mais avoir l'impression d'avoir plus d'intérêt.
D'avancer, oui.
D'avancer encore plus. Mais la recette derrière ça, ce qui est gagnant, c'est qu'il faut livrer derrière. Donc, il faut être capable. Alors, tout n'est pas nécessairement faisable. Des fois, on demande des choses, ce n'est pas nécessairement quelque chose sur quoi on est capable d'agir. Mais il y a plein de petites choses qui sont des irritants dont on n'a pas conscience quand on est gestionnaire d'une équipe. Et c'est très facile de les mettre de côté, d'enlever ces fameux obstacles à l'atteinte des objectifs.
Et ça, c'est la différence.
L'équipe le voit, ça fait toute la différence peut-être dans leur quotidien ou dans leur semaine. Et c'est très, très important. C'est puissant, ça, pour propulser une équipe.
Tu es une femme leader, mais tu es aussi une présidente de conseil d'administration pour des femmes, pour les femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer ce groupe fabuleux de femmes en juin 2019. Un de vos objectifs, c'est de ne plus exister en 2030.
Oui, ça peut sembler paradoxal comme mission, mais c'est sûr que l'objectif d'atteindre la parité dans un avenir pas trop lointain, il est important. Il est important pour les femmes, il est important pour les hommes, il est important pour tout le monde, en fait. Et je pense qu'on ne fera pas ça seules, les femmes. Il faut qu'on ait des alliés, il faut que nos partenaires, nos amis nous épaulent là-dedans et nous supportent. Et l'ensemble de l'œuvre de femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques, c'est de permettre aux femmes de demeurer pertinentes sur le marché du travail et de se doter d'outils de formation, de continuer à apprendre, mais aussi de pouvoir réseauter entre elles. Et puis finalement, de favoriser le rayonnement du talent féminin pour célébrer le talent féminin, mais aussi pour inspirer les autres femmes, inspirer la relève et leur dire que c'est possible et que dans un avenir pas trop lointain, on aura la parité dans l'ensemble des postes qui peuvent exister dans l'industrie du divertissement et des médias. Donc oui, mission paradoxale, parce qu'on souhaite ne plus exister, parce que pour moi, je voudrais que ça devienne une pensée qui n'est plus là, en fait, où on n'est pas obligé de faire ça de façon active, qu'il n'y aura plus de différence entre les hommes et les femmes dans l'ensemble de l'industrie. Puis, tu sais, si je sais qu'on voulait parler de leadership féminin aussi, de voir c'est quoi les attributs du leadership féminin. On a tendance à dire que les femmes, il y a une certaine authenticité, il y a de l'empathie, de la bienveillance. On en parlait tout à l'heure, de la bienveillance. Le souci de l'autre, beaucoup d'intuition aussi. Mais je ne suis pas certaine je pense qu'il y a un leadership féminin, mais je ne sais pas s'il est vraiment en opposition à un leadership masculin. Il y a l'émergence d'un nouveau leadership, de façon générale, qui est beaucoup plus près des gens, qui est beaucoup moins unidirectionnel. qui est un style de leadership qui est ancré dans l'authenticité, dans qui on est, dans la vulnérabilité. Et ça, moi, ça me parle beaucoup plus. Je pense que ce qui est important dans le leadership aujourd'hui, c'est le partage. Le partage de ses connaissances, le partage de son vécu. Et le, dans le partage, on donne, mais on reçoit aussi énormément et on apprend de ça et on se bonifie avec le temps, je dirais, dans notre style de gestion, notre style de leadership. Et moi, j'ai eu le grand privilège de travailler avec des femmes très inspirantes, mais avec des hommes aussi très inspirants qui sont dans un leadership extrêmement authentique, qui sont dans de l'empathie, de la bienveillance et dans le partage. Donc, c'est pour ça que je me permets de dire, je ne sais pas si c'est juste un leadership féminin. Il y a certainement des traits qui peuvent sembler plus féminins, mais je ne pense pas que c'est en opposition avec un autre style de leadership. Donc, voilà. Mais tu sais, c'est certain qu'il y a des obstacles profonds à l'accession des femmes à un certain type de pouvoir. Puis l'idée, c'est de se poser comment est-ce qu'on peut faire pour aider les femmes à atteindre leur plein potentiel? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'elles devraient faire? Et puis je fais partie de ça aussi, là. Il faut oser. Il faut oser dire les choses telles qu'elles sont. Il faut oser faire. Il faut oser prendre sa place. Il faut oser se tromper aussi. Essayer des choses. Oser se pardonner. Tu sais, on parlait de bienveillance. La bienveillance, ça commence par soi-même. Je pense qu'il faut aussi faire taire les petits disques qu'on peut avoir en tant que femme. On en a beaucoup et on a tendance à trop les écouter. Puis je pense que la clé, c'est d'avoir le courage d'être soi-même.
Comment tu, comme femme, leader, là, tu sais, si tu avais à donner un truc, des trucs pour les femmes, pour exprimer leur plein potentiel? C'est une vague question, je le sais, mais tu sais, un aspect qui, pour toi, a fait la différence dans ton leadership en tant que femme, ça serait quoi?
Je pense que c'est l'authenticité. Mais est-ce que c'est vraiment juste féminin?
C'est ça, hein?
En tant que femme, je pense que malheureusement, on est encore dans un environnement où on associe de façon inversement proportionnelle le succès et l'amabilité. On a l'impression que pour avoir du succès, on ne peut pas être aimable nécessairement, ou on ne peut pas être aimé, et qu'il faut être un peu désagréable. Et ça, je pense que c'est un des mythes qu'il faut déboulonner, parce que moi, des femmes et même des hommes, là on est juste dans le leadership féminin, le succès ne va pas nécessairement de pair avec le fait d'être désagréable. Au contraire, je connais des gens qui sont très inspirants, qui sont d'une élégance et d'une gentillesse, qui au contraire sont pour moi, ce sont des gens qui ont allumé des choses pour moi, qui ont montré le chemin. Donc,
Puis en même temps, certaines diraient qu'elles se limitent dans l'expression de leur dynamisme ou de leur tempérament un peu plus décidé parce qu'on reproche aux femmes d'être agressives si elles expriment un peu trop leur opinion.
Oui, effectivement, on s'auto-censure. Je pense que c'est un petit peu ça. On s'auto-freine. Mm. C'est un bon point ce que tu amènes, Chloé. Effectivement, on a tendance à pas vouloir en faire trop. On a tendance à pas vouloir, être affublé de cette épithète du trop. Mm.
Comment on fait pour transcender ça? Je dis pas qu'on l'a fait, hein, puis qu'une fois qu'on a transcendé ça dans une situation, on l'a fait dans toutes les situations, mais comment on fait pour développer ce muscle-là où on transcende cette limite-là qu'on se met soi-même?
Hein? Tu as raison, c'est quelque chose qui est en constante évolution, c'est pas figé du tout. Je pense qu'il faut le décider au départ. Hein. Ça prend un premier appel pour se dire, ben là, ça suffit. Je pense qu'il faut arriver à travailler avec sa petite voix qui revient de temps en temps. C'est un petit peu fatigante où on lui dit, mais non, ça va bien, je vais bien, je peux faire telle chose, je me le permets. Moi, ce qui a été très puissant pour moi, ça a été justement de me donner cette permission, quitte à l'écrire des fois, j'ai besoin de certaines choses et je m'écris, je me donne cette permission-là aujourd'hui de faire telle chose, de dire telle chose, d'aller au bout de qui je suis et de ne pas mettre de filtre et honnêtement, de ne pas d'avance présumer que les gens vont porter un jugement par rapport à ça. Parce que souvent, on pense qu'il y en aura un, mais il n'y en a pas. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, pas ce que je dis. Mais souvent, nous-mêmes, on se juge d'emblée ou d'avance et on présume de comment les gens vont recevoir une attitude, un propos, une recommandation qu'on va amener, une stratégie qu'on va proposer, alors que ce n'est pas nécessairement le cas.
On se crée des scénarios, on anticipe des fois.
On se raconte des histoires. Ouais, oui, c'est très fort, ça, les petites histoires qu'on se raconte. Mmh. Certains appelleraient ça les disques qu'on se repasse tout le temps. Donc, oui.
Moi, j'appelle ça des pensées qui louent notre cerveau puis notre espace mental pour pas assez cher. C'est vraiment, on ne charge pas assez cher pour que ces pensées-là existent dans notre cerveau. Alors, faut les faire partir. Christine, on approche de la fin de notre conversation. C'est passionnant. J'adore ça. Merci vraiment encore là, de ta générosité, de ton temps. C'est le temps de nos questions à une minute.
Déjà,
ça va vite, hein?
Mais j'aurais plein d'autres choses à dire, mais c'est...
Bon, ben là, c'est ta chance. Dans les questions à une minute, s'il y a des choses que tu n'as pas dites, là, vas-y. Non, y a-t-il une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose, ouais?
Non, je pense qu'on a fait le tour.
Super. Quelle est pas ta CSU, Christine? Ta contribution stratégique unique?
Ma contribution stratégique unique? C'est très personnel, ça. Moi, ma contribution stratégique unique, elle est faite en fonction ma volonté de gestion. Donc, pas juste ma portée au niveau de mon leadership, d'impact, d'influence qu'il peut y avoir avec d'autres, avec mes pairs ou avec ma hiérarchie. Elle est beaucoup plus faite en fonction de mon équipe. Et tout à l'heure, je parlais de bienveillance et pour moi, elle est là-dedans. Alors, ma CSU, en grande primeur, c'est de donner des racines pour pouvoir donner des ailes. Ça sonne un petit peu comme une carte de souhait. Et j'ai quand même, après avoir travaillé sur cette CSU-là, en fait, je me suis rendu compte qu'on n'était pas des personnes différentes dans notre quotidien ou avec notre famille de celles qu'on était au bureau. On ne peut pas avoir des personnalités ou des valeurs qui sont différentes parce qu'on serait un petit peu en dissonance. Et donc, le fait d'être capable de dire, bien, dans le fond, moi, c'est un petit peu ce que j'essaie de faire autour de moi, dans mes amitiés, dans les relations que j'ai avec les gens. Et je me suis rendu compte que ça résonnait quand je ramenais ma CSU à cette expression, qui est une expression qui existe. C'est un proverbe apparemment qu'on utilise pour les enfants. Je ne vois pas du tout mon équipe comme des enfants et je ne suis pas leur mère. Par contre, je suis certainement dans un leadership de service. Pour moi, c'est moi qui est au service de mon équipe. C'est moi qui travaille pour eux et pas l'inverse.
C'est quoi ton conseil pour responsabiliser ton équipe ou une équipe que tu donnerais à un leader là-dessus?
Je pense que c'est de leur faire réaliser qu'ils savent déjà. C'est de leur donner confiance et c'est d'avoir confiance en eux. Leur donner confiance, ça leur permet de s'élever. Ça leur permet de réaliser le potentiel qu'ils ont. Parce que souvent, les équipes ont déjà la réponse. Ils sont les gens souvent sur le terrain. Ils ont les éléments en main pour pouvoir prendre une décision ou à tout le moins, ils connaissent déjà tous les facteurs ou les éléments dont il faut tenir compte pour soit prendre une action ou prendre une décision. Moi, je suis là pour les aider à chercher puis à trouver la solution qui souvent existe déjà.
Si tu avais à résumer le leadership en trois mots.
En trois mots, ce serait le fait d'être connecté, donc la connexion. Connecté, ça veut dire connecté sur soi-même, savoir qui on est. Connaître un petit peu ce que moi j'appelle mes angles morts. Donc, certains appelleraient ça des mind traps. Donc, être connecté sur soi, être connecté sur les autres aussi. On parlait d'écoute tout à l'heure. Pour moi, ça, c'est primordial. J'ai exprimé le souhait cette année d'écouter plus, mais surtout d'écouter mieux. C'était vraiment un des objectifs que je me suis fixé. le fait aussi d'être commis, engagé. Il faut être entièrement, passionnément impliqué dans ce qu'on fait. Parce que c'est là-dedans souvent qu'on trouve du plaisir dans ce qu'on fait, puis que ça résonne, que ça nous fait vibrer, que ça nous inspire, puis que ça inspire les autres aussi. Et puis finalement, je dirais le courage. Le courage d'être soi, le courage de se déposer. Alors, tu auras compris qu'en anglais, ça donne le 3C, alors qui n'est pas très loin de tes 5C dans ton livre, qui est un livre fabuleux d'ailleurs. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire, très, très pratique, très concret. Donc, bravo encore, tout simplement.
Merci. Alors, j'ai adoré connecter avec toi, Christine. Merci.
Pareillement. On a déjà cette connexion-là. C'est vraiment fabuleux.
Très fabuleux. Très, très heureuse de te voir évoluer aussi comme leader. Puis le plaisir que tu prends à être cette leader, justement, c'est très, très beau à voir.
C'est un... Je le disais tout à l'heure, ça demande du temps, ça demande des efforts, mais c'est extrêmement gratifiant. Pas juste sur le plan professionnel, mais sur le plan humain aussi. On a l'impression qu'on donne beaucoup, mais on reçoit tellement aussi. Et on apprend. On apprend énormément. Puis moi, pour moi, c'est important d'apprendre. D'apprendre sur les autres, d'apprendre sur moi-même.
Et tu as permis aux gens qui nous écoutent d'apprendre. J'en ai aucun doute.
Mais je le souhaite. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté ce podcast « Propulser votre équipe ». Nous espérons que vous l'avez apprécié et que vous pourrez mettre en pratique les outils et les idées partagées. Pour plus de contenus gratuits, d'événements et d'outils de développement, visitez notre site web au propulsezvotreéquipe.com ou sur nos pages LinkedIn ou Facebook. Et assurez-vous de vous inscrire à notre infolettre pour continuer à recevoir du contenu et des informations « Propulser votre équipe ».